Conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, c'est une émission un peu particulière. Nous sommes dans la galerie de minéralogie du Muséum national d'histoire naturelle en compagnie de François Farge et de Brigitte Zanda qui vont nous expliquer les minéraux. À vous qui êtes spécialiste des météorites, maître de conférence au muséum, qu'est-ce que c'est qu'une météorite et comment est-ce qu'on la différencie des autres pierres qu'on peut trouver à la surface de la Terre ?
Alors une météorite, c'est une pierre qui tombe sur Terre et qui atteint le sol de la Terre. Et quand elle tombe, elle doit traverser l'atmosphère et à ce moment-là, beaucoup de phénomènes très violents se produisent et en particulier, sa surface est brûlée. Donc les météorites se reconnaissent bien parce qu'elles sont recouvertes d'une croûte noire qu'on appelle la croûte de fusion.
Donc si vous voyez une pierre traîner par terre, vous êtes capable de dire tout de suite si c'est une météorite ou si ça n'en est pas ?
Absolument, s'il s'agit d'une météorite fraîchement tombée. Parce que non seulement elle a cette croûte de fusion, mais comme elle s'est généralement cassée dans l'atmosphère, elle va avoir des formes très angulaires et des faces souvent planes, lissées lors de la traversée aussi de l'atmosphère, et des angles très marqués, mais généralement émoussés. Et l'intérieur de la pierre est différent de la surface. Donc lorsque la pierre est fraîche, qu'elle n'a pas été soumise aux intempéries à la surface de la Terre, c'est très facile de la reconnaître.
Donc on peut la reconnaître par sa forme, par sa structure apparente. Mais est-ce qu'il y a aussi une différence liée à sa formation, aux atomes qui la constituent par exemple ?
Alors les météorites ont des compositions qui sont fondamentalement pas différentes de celles de la Terre. Simplement beaucoup de météorites, toute une fraction, celles qu'on appelle les plus primitives, ont la même composition que la Terre dans son ensemble. Ça veut dire qu'elles contiennent le métal qui est parti au centre de la Terre. Donc beaucoup de météorites, la plupart des météorites contiennent du métal, enfin du fer sous forme métallique, donc des grains de métal qui brillent, voire même toute la météorite est constituée de métal.
Je vous propose qu'on avance dans l'exposition et que vous nous expliquiez quelques météorites qu'on voit là, qui sont magnifiques, d'où elles viennent et comment elles peuvent nous renseigner sur la formation des planètes et même l'origine peut-être du système solaire. Là, nous sommes devant une vitrine qui s'intitule « Les météorites primitives, témoins de l'origine du système solaire ». Donc, j'imagine qu'elles sont très anciennes. Comment est-ce qu'on parvient à les dater, ces météorites ?
Alors, dans ces météorites, en particulier dans celle-ci, on voit des petits grains, des petits ensembles de grains blancs. Ces grains blancs, c'est ce qu'on appelle des inclusions blanches ou inclusions réfractaires. Ce sont les premiers minéraux qui se sont condensés dans le disque, autour du Soleil, alors que le Soleil venait juste de se former.
Et donc, ce sont 5 milliards d'années à peu près.
Il y a 4 milliards 567.
Exactement.
Oui, à de plus ou moins 200 000 années près. C'est extrêmement précis et c'est justement l'âge de formation de ces minéraux que l'on prend par définition comme l'instant zéro de la formation du système solaire. Bien entendu, ce n'a pas été un processus immédiat, mais tout de même relativement bref. Et c'est cet instant-là qu'on sait parfaitement dater, que l'on utilise comme l'âge du système solaire.
Là, nous sommes devant une chondrite qui a été trouvée à Ensisheim dans le Haut-Rhin, qui fait 8 kilos. Et très franchement, et c'est là qu'on voit que vous êtes une spécialiste, si on me demandait de commenter cette pierre, je penserais que c'est une pierre terrestre, sans du tout deviner qu'elle puisse être une météorite. Quels sont les détails qui, à vous, permettre de savoir que c'est une météorite ?
Alors cette météorite, elle est assez particulière pour tout un tas de raisons. Déjà, c'est la première pierre tombée au sol qui a été récupérée en Europe. Elle date de 1492, soit plus de 500 ans. Et là, vous n'en voyez qu'une fraction. Donc pour cette raison, il n'y a plus la croûte de fusion, ce qui rend l'identification assez difficile.
C'est-à-dire que les gens qui l'ont récupérée à l'époque savaient que c'était une météorite ?
Ils l'ont vu tomber. Il y a un petit berger qui l'a vu tomber. Alors elle a une histoire assez amusante parce que il est rentré dans le village précipitamment. Il a prévenu tout le monde. Ils se sont tous précipités à l'extérieur du village. Ils ont commencé à en casser des bouts comme talisman. Le maire du village est sorti, il a dit « Ah non, arrêtez, on la porte dans le village » et comme elle était tombée du ciel, on l'a portée à l'église.
Ah, il y a eu un petit cratère ?
Non, parce qu'elle était relativement petite. Je ne me souviens pas de la taille exacte, mais quelque chose comme 65 kilos. Alors, c'est quand même assez gros. Cet échantillon-là, c'est juste une portion de 8 kilos, parce qu'au moment de la Révolution, la météorite a été envoyée à Paris. Et le muséum qui venait d'être créé en tant que muséum en a prélevé un morceau. Donc ce morceau-là qu'on a, bien sûr, il n'y a plus de croûte de fusion. Néanmoins, il y a une face qui est sciée. Et si on regarde cette face sciée, qu'on se met dans la bonne orientation, on voit briller les grains de métal qui sont constitutifs de cette météorite et qui nous indiquent bien qu'il s'agit d'une météorite.
Alors, ces météorites sont moins colorées que d'autres cristaux qu'on verra tout à l'heure. Ça se comprend ?
Elles sont faites d'un ensemble de minéraux qui sont en fait ceux qui sont présents dans le manteau de la Terre. Et effectivement, de l'olivine, du pyroxène, ce sont des silicates de fer et de magnésium. Ce ne sont pas des minéraux qui sont extrêmement colorés. Donc la plupart d'entre elles, effectivement, sont assez grises, voire noires. Il y a quand même quelques échantillons spectaculaires, en particulier cette tranche de palazite que vous voyez ici.
Nous changeons de vitrine. Hein. C'est une vitrine qui s'intitule « Les météorites différenciées, témoins de l'évolution des planètes ». Donc c'est plus l'origine qui est en grande cause, mais plutôt l'évolution des planètes. Et en effet, on en voit une là qui est très colorée, très, très brillante même, et qui s'appelle Imilac.
Voilà, il s'agit d'une tranche, d'une palazite qui est tombée en Amérique du Sud. Et donc cette météorite est constituée de métal à l'intérieur duquel sont sertis des cristaux d'un minéral transparent, qui est un minéral semi-précieux qu'on appelle le péridot, et qui sont effectivement transparents. Donc là, on s'est arrangé pour présenter cette pièce de façon à ce qu'elle soit éclairée par au-dessus, qu'on voit le métal briller, mais aussi éclairée par transparence pour voir ces cristaux d'olivine qui brillent.
Alors au moment de leur impact sur la surface terrestre, quelle est la vitesse des météorites ? Ça dépend, j'imagine, de leur masse.
Ça dépend de leur masse.
Par l'atmosphère, mais peut-être pas beaucoup.
Ça dépend de leur masse, ça dépend de leur angle d'incidence, ça dépend si elles arrivent derrière la Terre ou face à la Terre. Mais elles ont des vitesses qui sont de l'ordre de celles de la Terre autour du Soleil, soit environ 70 000 km à l'heure.
Et donc on voit à peine leur trajectoire, j'imagine.
La traversée de l'atmosphère, c'est un phénomène à la fois très brutal et très bref. Parce que pour la météorite arrive du vide interplanétaire, bon, qui n'est pas tout à fait vide, mais un milieu extrêmement peu dense. Et pour elle, l'atmosphère est extrêmement dense. Donc elle va voir l'atmosphère littéralement comme un mur. Si la météorite est extrêmement massive, extrêmement compacte, donc s'il s'agit d'un gros bloc de métal, par exemple, il est possible que l'atmosphère la ralentisse finalement très peu. Et donc elle va libérer toute son énergie cinétique en arrivant au sol. En revanche, si la météorite est plus petite ou s'il y a des joints de grains, elle va pouvoir se fragmenter parce qu'en fait, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va comprimer l'air qui est à l'avant. Cet air qui est brutalement comprimé est porté à des températures extrêmement élevées et s'ionise et ça fait un plasma qui est en fait plus chaud que la surface du Soleil. Et ce plasma va entourer l'objet, donc ça va faire un phénomène lumineux, une espèce de boule de feu. Beaucoup d'entre vous ont vu les images de la chute de Tcheliabinsk en Russie en février 2013. Cette espèce de boule de feu est en fait produite par la compression de l'air par la météorite. La météorite elle-même est comprimée dans cette opération. Si vous prenez un caillou, vous donnez un grand coup de marteau dessus, il se casse. C'est pour ça que les météorites arrivent le plus souvent sous forme d'une pluie de pierres.
Alors là, on voit quelques exemples dans cette vitrine d'impact qui ont des formes très différentes. Certains sont presque plans, parfaitement plans même. D'autres ont des formes plus curvilignes, disons. Ça se comprend ?
Quand vous voyez quelque chose qui est plan, il s'agit d'une tranche qu'on a fait dans une météorite parce qu'on ne possède pas tout l'objet et puis ça permet de voir comment c'est à l'intérieur. Donc ça, ce sont des artefacts faits par l'homme. Une météorite entière, une météorite de fer entière, c'est celle-ci, la météorite de Jinkal, dont vous voyez que la surface, comme il s'agit entièrement de métal, la croûte de fusion n'est pas aussi visible et la surface, en revanche, est malaxée, littéralement. C'est ce qu'on appelle des regmaglyptes ou comme des traces de doigts. C'est comme si quelqu'un avait enfoncé ses doigts dans de la pâte à modeler. Et ça se fait sous forme de tourbillons dans l'atmosphère.
Et Brigitte Zanda, j'ai l'impression que cette météorite est extrêmement dense. Elle n'est pas très volumineuse, quelques litres, et elle pèse 103 kilos. Elle a été trouvée au Chili, dans le désert de l'Atacama. J'imagine que c'est dans les déserts qu'on les voit le mieux, puisqu'elles restent à la surface et on peut les repérer facilement.
Cette météorite, effectivement, on trouve beaucoup de météorites dans les déserts, en Atacama, au Sahara, dans les déserts glacés, puisqu'on fait des expéditions pour aller les chercher en Antarctique. Une pierre noire sur de la neige, c'est nécessairement une météorite. Donc effectivement, c'est une des manières de retrouver des météorites. Ensuite, celle-ci, plus particulièrement, il s'agit donc d'un bloc de fer et de nickel. C'est pour ça qu'elle est extrêmement dense. C'est une densité qui est à peu près 2,5 fois celle d'une pierre normale. On a une densité ici qui est de l'ordre de 8, alors que la densité des pierres qu'on a normalement à la surface de la Terre, c'est plutôt de l'ordre de 3. Et elle est mise ici pour qu'on puisse la toucher, qu'on puisse se faire le plaisir de toucher l'espace.
Il y a un petit panneau de ne pas toucher.
Oui, ça s'adresse à la tranche qui est au-dessus.
Ah, d'accord. Continue la visite de cette magnifique exposition avec François Farge. Vous êtes professeur de cristallographie, ou plutôt de minéralogie, excusez-moi, au Muséum National d'Histoire Naturelle et aussi à l'Université de Stanford. Alors, on passe du domaine des pierres extraterrestres, disons, au domaine des pierres terrestres, aux minéraux. Alors, est-ce qu'on est capable de définir les minéraux ?
Oui, la définition d'un minéral tel qu'on l'entend de nos jours, parce que comme toute définition, ça varie avec le temps. De nos jours, c'est une substance plutôt d'origine minérale, mais pas forcément, qui est surtout définie par une composition chimique fixe et une cristallographie précise. Et en général, ce sont des substances, en général solides, d'origine biogéochimique, donc qui sont liées à la formation du système naturel à la surface de la Terre. Mais pas seulement, on trouve aussi des minéraux à l'intérieur de la Terre et aussi plein d'autres minéraux, comme on vient de le voir avec Brigitte, dans l'univers.
Alors les minéraux, c'est ce que disait en tout cas Roger Créoy, qui est présent dans l'exposition et qui avait une très belle collection, je crois.
Absolument.
Disait que les minéraux appartiennent à ce qu'il appelait le fantastique naturel.
Oui. Oui, il disait aussi que certains minéraux, comme l'obsidienne, étaient le miroir de l'âme. Et donc, effectivement, toutes ces magnifiques citations de Roger Caillois, donc membre de l'Académie française, qui a écrit ces textes si magnifiques sur les minéraux, permettent de les comprendre et de les voir non seulement avec un aspect vraiment poétique au sens premier du terme, mais aussi avec tout le côté évocatif, voire psychologique, à travers duquel il a essayé de décrire sur le papier toutes les émotions qu'il a ressenties en voyant ces minéraux. Il les appelait pierres de rêve, c'est inspiré du chinois, Mengxi, dans lequel justement tout est, la place est donnée essentiellement au rêve, à l'évocation.
Alors, pour ne rien vous cacher, quand j'étais étudiant, j'ai eu un cours de cristallographie. On m'enseignait les différents types de mailles, les indices de Miller, etc. Mais il n'y avait aucune illustration, aucune photo. Or, quand on voit cette exposition, on voit qu'on a raison de parler d'une géodiversité, à côté de la biodiversité qui est beaucoup plus souvent évoquée. La géodiversité, est-ce qu'elle est menacée, comme on dit que la biodiversité l'est ?
Oui, vous avez absolument raison. La géodiversité est extrêmement menacée, je dirais autant, sinon plus, sur certains aspects que la biodiversité, dans la mesure où dès qu'un minéral est broyé pour fabriquer nos smartphones, nos voitures, les pare-brises
et
nos ordinateurs, pour fabriquer beaucoup d'instruments de la vie de tous les jours. Malheureusement, ces minéraux-là sont détruits irrémédiablement et on ne peut pas les mettre dans un zoo, une ménagerie, pour les faire se reproduire, ça ne marchera pas. Donc tous ces minéraux sont malheureusement, très souvent, sont voués à la destruction irrémédiable.
Et nous... Donc, si je comprends bien, la géodiversité est menacée par l'exploitation minière.
Entre autres, elle est surtout, je pense, menacée par notre manque relatif de sensibilité vis-à-vis de ce concept, comme vous l'avez dit justement, qui est peu connu, de géodiversité. Et si on le connaissait un peu mieux, et c'est le but de cette exposition, on serait plus conscient, effectivement, de l'incroyable apport de cette géodiversité dans notre vie de tous les jours. Et donc, a priori, après, on pourrait mieux la protéger.
Alors peut-être que vous pourriez nous commenter quelques-unes des magnifiques pièces qui sont dans cette partie de l'exposition. Par exemple, je la prends au hasard, cette rhodochrosite qui est rose, qui vient d'Argentine et qui a des formes et des couleurs absolument superbes.
Oui, c'est un minéral qui est l'un des clous peut-être de l'exposition. En fin de compte, c'est une section qui a été sciée et polie dans une stalactite. Alors la tranche que l'on voit, qui montre ces couches concentriques de différentes tonalités de rose, absolument stupéfiantes, magnifiques, est en fin de compte donc une tranche. Et il faut imaginer donc la stalactite comme étant perpendiculaire à cette tranche, c'est-à-dire pointant vers nous. Et donc on y voit un peu comme dans les cernes de l'arbre, d'un arbre dont on aurait scié le tronc, on voit les différentes zones de croissance. Et à l'origine, il y avait plein de petites stalactites, comme vous pouvez voir ici avec les zones concentriques centrales de l'échantillon, qui ont grandi au fur et à mesure et qui se sont agrégées pour faire ce magnifique échantillon.
Et une autre pièce, par exemple, qui a une forme complètement différente, a des couleurs elles aussi magnifiques, l'Elbeitrubelite. Après, oui. On passera à l'or massif, si vous voulez bien.
Oui, c'est l'elbaïte, c'est comme on disait avant, une pierre précieuse. Maintenant, on dit plutôt une pierre gemme, qui est un cristal donc absolument donc naturel, qui vient de Madagascar, de très grande taille. Il fait plus de 40 cm de haut et qui montre donc une formidable cristallisation d'un prisme sur 40 cm environ. En haut, il y a des terminaisons très étranges. Il y a plein de couleurs qui vont du rouge, du rose, de l'orange. Il y a tout un camaïeu de couleurs chaudes que nous avons essayé de mettre en évidence grâce à des éclairages à l'arrière du cristal qui nous permettent de voir ces transparences et ces différentes zones qui sont liées en fin de compte à différents épisodes de la croissance cristalline de cette tourmaline magnifique.
Alors juste à côté, il y a de l'or natif qui vient de Californie et qui a provoqué il y a quelque temps la ruée que l'on sait. Il y a des choses à dire sur lui, sur sa forme un peu particulière, le fait qu'il est structuré dans ce qui ressemble à des lamelles.
Oui, alors cet échantillon se présente effectivement comme des grandes lamelles d'or posées sur un bloc de quartz. Il y a déjà ce qui est stupéfiant, ce qui frappe au premier regard, c'est la grande opposition de texture, de matière entre cet or très brillant en forme de lame mince et la sagangue, qui est un morceau de quartz ferrugineux, je dirais, relativement banal. Donc c'est cette opposition esthétique qui est déjà très belle. Et en plus, cet échantillon est scientifiquement très intéressant. C'est l'un de nos plus beaux ors de la collection, sinon le plus beau. Il montre, les lames d'or montrent des tas de cristaux. Si vous vous rapprochez tout doucement, vous verrez plein de petits triangles sur les lames d'or. En fin de compte, cette lame est composée d'une infinité de petits cristaux triangulaires et les cristaux d'or, c'est extrêmement rare.
Deux belles pièces également qui sont noires et blanches, l'une qui s'appelle Neptunite et l'autre qui s'appelle Pyrargyrite. Pourquoi est-ce que la plupart des noms de cristaux se terminent par ite?
Alors oui, ça c'était pas forcément le cas avec les pères fondateurs de la minéralogie, notamment René Justahuy, qui était professeur au muséum, qui lui utilisait plutôt des racines grecques qui se terminaient pas en it. Mais effectivement, c'est comme faudrait poser aussi la question aux médecins, pourquoi beaucoup de maladies se terminent aussi en it? C'est le point commun qui est entre les minéraux. Je crois que c'est une habitude qui est venue avec le temps.
Et qui décide du nom qu'on donne à une pièce qu'on vient de trouver, par exemple?
Eh bien, maintenant, c'est un chercheur, dans un premier temps, qui trouve un minéral nouveau. Donc, en décrivant la pièce, propose un nom qui doit être approuvé par une instance internationale qu'on appelle l'International Mineralogical Association, donc Association Minéralogique Internationale en français, qui est un groupement de différents scientifiques qui permettent de valider l'espèce minérale nouvelle, donc le côté scientifique et aussi son nom.
Ma question est peut-être un peu stupide, mais combien de noms sont répertoriés dans la classification que
Alors,
vous avez...
il y en a un nombre absolument incroyable, mais il y en a beaucoup qui ne sont plus utilisés à l'heure actuelle. Ils ont été, comme on dit, discrédités. Au XIXe siècle, la minéralogie descriptive a inventé des tas de noms, et on s'est rendu compte après que ces noms-là étaient synonymes d'une même espèce. Donc, à l'heure actuelle, on a 4800 environ d'espèces minérales, ce qui n'est pas beaucoup par rapport à la biodiversité, parce que le concept de description d'une espèce minérale est beaucoup plus restrictif que pour la biodiversité. Mais pour en revenir effectivement à votre question, le nombre actuel de noms de minéraux est beaucoup plus grand que le nom actuel d'espèces, à cause de tous ces synonymes.
Alors il y a un physicien qui s'appelle Ernest Rutherford qui a découvert le noyau, qui disait « la science c'est soit de la physique, soit de la philatélie ». Il voulait dire par là qu'il faut classer les choses, faire des taxinomies pour pouvoir espérer progresser. Et il me semble que votre science, la minéralogie, combine la classification et la physique ou la chimie, puisqu'on comprend la structure de ces différents matériaux, et en même temps, on a dû les classer. Alors, comment est-ce qu'on classe les différents types de cristaux ou de minéraux ?
Oui, effectivement, la classification, c'est une partie importante de la minéralogie à l'heure actuelle, qui s'appelle la minéralogie descriptive, qui, effectivement, est très importante avant de pouvoir se poser les véritables questions. Mais je dirais que la minéralogie descriptive, à l'heure actuelle, c'est 5 à 10% de la minéralogie à l'heure actuelle. Maintenant, que ce soit les scientifiques ou le grand public, les grandes questions qui demeurent, effectivement, c'est pourquoi ou comment. On essaye de d'élucider pourquoi les minéraux se forment, justement, sur lesquels qu'on a réussi à classer. Et pour en venir plus spécifiquement à votre question, il y a différents types de classification, soit par la composition chimique, soit par la cristallographie, puisque ce sont, comme on l'a dit précédemment, les deux notions fondamentales qui permettent de définir une espèce minérale. Et donc, c'est autant de la physique que de la chimie. Il faut faire des analyses chimiques pour savoir si on est plutôt dans des oxydes, des carbonates, donc tous ces noms un peu compliqués de la chimie. Et en plus, savoir dans quel type de système cristallin le minéral appartient, parce qu'il y en a des hexagonaux, il y en a des cubiques. Et il y a aussi une grande diversité de formes cristallographiques.
Bon, nous sommes déplacés de quelques mètres et nous sommes devant des pièces absolument incroyables dont on se demande comment elles peuvent être naturelles. Des azurites, par exemple, qui ont des couleurs violettes, vertes, bleues, extraordinaires. Des choses à dire sur ces objets ?
Oui, ces objets illustrent aussi non seulement la beauté du monde minéral et comment le muséum a su préserver justement ces magnifiques témoins de l'histoire de la Terre. Et ce témoignage montre effectivement qu'un seul minéral comme l'azurite, comme vous l'avez décrit, se présente de plein de manières différentes. Et c'est ça une des difficultés de la minéralogie, c'est qu'en minéralogie, on se fie pas à l'aspect extérieur, comme souvent en biodiversité. Un peu moins de nos jours grâce à la biologie moléculaire. Mais en minéralogie, le côté descriptif va beaucoup plus loin, va au-delà des apparences. Et donc, il est nécessaire de sonder les atomes, de savoir qui sont-ils et comment ils sont organisés, de façon à pouvoir comprendre ce que c'est que ce minéral-là. Mais l'aspect extérieur, comme vous pouvez voir, est très différent.
Oui, parce que deux objets qui ont exactement la même composition chimique, qui ont les mêmes atomes, peuvent avoir des formes et des apparences complètement différentes.
Absolument, et ça peut même être deux espèces minérales différentes si leurs atomes sont disposés cristallographiquement de manière différente. C'est le cas, par exemple, de la calcite et l'aragonite, qui sont tous les deux des carbonates de calcium, mais l'agencement des atomes dans l'un n'est pas du tout le même que dans l'agencement que dans l'autre, et effectivement, les formes extérieures macroscopiques que l'on verra de ces deux minéraux sont assez différentes.
Alors François Varge, vous êtes professeur ici au Muséum National d'Histoire Naturelle, mais vous êtes également professeur à Stanford. Bon, pour les physiciens, Stanford, c'est ce lieu où se trouve encore un accélérateur de particules. Quels sont les instruments que vous utilisez pour connaître justement la structure des cristaux, les atomes qui les constituent ? Vous faites appel, je crois, à des grands instruments, vous aussi.
Absolument. Oui, effectivement, quand j'ai été professeur à Stanford, ça s'est arrêté en 2013. J'ai essayé de travailler donc sur place à l'élaboration de grandes machines, qui sont des accélérateurs synchrotrons, des grandes, pour dire avec des mots simples, ce sont des machines qui produisent d'énormes quantités de rayons X, très intenses et ayant des qualités de lumière particulières qui nous permettent de sonder la matière matière à l'échelle atomique. Et ça a été notre grand travail, c'est-à-dire de doser la matière dans ce cas-là de plus subtil, de façon à en déterminer des informations qui permettent de nous renseigner dans quelles conditions tel minéral s'est formé, dans quelles conditions ce minéral est stable. Et ça nous permet au muséum donc non seulement d'avoir un discours donc scientifique sur l'histoire de la Terre, mais aussi d'avoir un discours de conservation des échantillons, parce que les échantillons étaient extraits de leur système géologique naturel, et être mis en présentation, en collection, ça peut en déstabiliser un certain nombre. Donc nous, au niveau du muséum, on a toute une approche de conservation préventive, comme l'on dit, c'est-à-dire il faut non seulement enrichir les collections, mais aussi il faut les préserver pour les transmettre aux générations futures. Et l'aspect scientifique nous permet de travailler sur ces deux aspects.
Alors, est-ce que vous comprenez la couleur des cristaux, des minéraux? C'est-à-dire, par exemple, celui-ci qui est un quartz, il est transparent. Est-ce que vous savez pourquoi? Vous pouvez l'expliquer de par sa structure, disons, élémentaire?
Oui, ce minéral est particulièrement transparent, notamment le quartz, parce qu'il absorbe il absorbe très peu de rayonnement de la lumière solaire, ce qui à contrario par exemple de l'azurite dont on parlait tout à l'heure, qui elle est bleue parce qu'elle contient du cuivre sous une forme chimique bien particulière. Alors pour les experts, c'est du cuivre cuivrique en effet Jan Teller, mais on va arrêter de dire des gros mots, parce que ça c'est cet effet-là qui permet effectivement d'absorber notamment une grande partie des rayonnements rouges de la lumière solaire, et donc il nous donne l'impression, ce minéral nous donne l'impression d'être bleu. C'est pas le cas du quartz qui lui laisse passer tous les rayons.
De la lumière visible, mais si on l'éclairait avec de la lumière par exemple ultraviolette ou infrarouge,
alors, très bonne question,
comment
effectivement.
Est-ce qu'il apparaîtrait?
Alors ce quartz-là à l'infrarouge, il est assez transparent, mais par contre à l'ultraviolet il devient nettement plus opaque. Absolument.
Voilà. Et un cristal qui serait complètement noir serait un cristal qui absorberait toutes les longueurs d'onde visibles.
C'est ça.
Vous écoutez France Culture, la conversation scientifique par Étienne Klein.
François Farge, nous changeons de place et nous sommes dans un endroit qui s'intitule de la pierre à l'objet, où on voit comment, évidemment, on a fabriqué des objets d'art à partir des différentes pierres. Et je crois comprendre que Louis XIV était un amateur éclairé en matière de minéraux. Est-ce que vous pouvez commenter par exemple ces pièces magnifiques dont le muséum est le dépositaire ?
Oui, nous avons en face de nous un plateau en marbre très impressionnant qui fait plus d'un mètre de long sur un peu moins d'un mètre de haut. C'est un plateau de table, donc on l'a exposé vertical pour qu'on puisse bien voir ses éléments de décoration, mais à l'origine, bien évidemment, elle était horizontale. Et c'est une table qui a été faite par l'atelier florentin de l'Office des pierres dures à Florence, qui travaillait donc pour les Medici et qui est composée d'une grande masse de marbre noir des Ardennes qui constitue le fond de cette table, donc d'un noir très puissant, d'un noir très profond, dans lequel une vingtaine d'ouvriers au tout début du XVIIe siècle, pendant plusieurs années, ont patiemment creusé cette énorme plaque de marbre pour pouvoir y insérer des éléments de pierre fine, que ce soit des jaspes, des améthystes, de la nacre, des perles, du corail, enfin tout l'assemblage connu à cette époque de pierre fine qui faisait la gloire de la Renaissance florentine. Quand on se rapproche de plus près de la table, on se rend compte à quel niveau d'expertise ces artisans étaient arrivés. On ne voit quasiment aucun contact entre le marbre qui fait le fond et la pierre qui a été sertie dedans. C'est même pas une fraction de millimètre, c'est absolument invisible à l'œil nu. Donc c'est un travail absolument colossal. Et d'un point de vue de rendu naturaliste, ce qui est très important pour nous au muséum, regardez comment ce jaspe de Corse, du nord de la Corse, a été taillé de façon à montrer la feuille de la vigne, mais aussi la petite maladie, le mildiou qui se développe sur la feuille de vigne, et avec à côté une magnifique grappe de raisin taillée dans de la plus belle améthyste.
Louis XIV, j'ai l'impression, était amateur de ce type d'objet.
Les deux grandes passions de Louis XIV, hein, c'était les jardins et les pierres précieuses. On oublie souvent les pierres précieuses, mais effectivement, il était un grand, grand collectionneur. Et c'était pas simplement pour les fastes de cour. Évidemment, ces collections agissaient comme des instruments de pouvoir. Mais surtout, le souverain avait une réelle passion pour le monde minéral.
Alors, on va peut-être changer de place et aller dans cette partie de l'exposition qui montre des gemmes, qui s'intitule de la mine aux bijoux. Alors, j'imagine que c'est la partie de l'exposition qui peut-être intéresse le plus le public.
Alors,
est-ce que vous le confirmez ?
Alors, la partie du public qui est très intéressée aux objets d'art et aux pierres taillées, on a aussi une grande quantité de visiteurs. Eux, ils sont plus intéressé par le minéral proprement dit. Et alors justement, on a voulu essayer de réconcilier ces deux visions soi-disant opposées de la minéralogie, où effectivement dans cette alcôve de la mine aux bijoux, on présente des pierres précieuses, des objets d'art qui ont été taillés dans plein de matières différentes, mais on montre juste à côté un équivalent naturel. Comme ça, les visiteurs peuvent se rendre compte de l'importance du travail humain, l'importance du travail de la nature, et de montrer ce que les pères fondateurs du muséum voulaient pour le muséum, c'est-à-dire ils voulaient qu'on montre les magnificences des productions minéralogiques de la Terre, mais aussi ce que l'humanité avait su en tirer.
Et donc quand on voit les pièces qui sont dans cette alcôve, est-ce que vous, spécialiste, êtes capable de dire quelle est la part qui revient à la nature et quelle est la part qui revient au travail humain ?
Alors,
on a l'impression d'être dans une bijouterie. Hein,
absolument. Oh, c'est même une super bijouterie dans la mesure où on présente aussi beaucoup de cristaux bruts, ce qui est beaucoup plus rare dans une bijouterie. Donc ça permet aux visiteurs de faire la comparaison entre l'état naturel et l'état taillé. J'irais que la proportion de chaque, c'est un peu difficile. C'est comme si on essayait de savoir si une orange était meilleure qu'une pomme. Je pense que les deux sont très beaux. On peut aimer les deux. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est que chacune ont deux histoires différentes. Les minéraux que l'on voit présentés dans cette vitrine, ce sont des livres ouverts sur l'histoire de la Terre. Alors que les pierres, elles sont, les pierres qui sont taillées, qui sont montrées juste à côté, elles évoquent des grands moments de l'histoire de France. Le Louis XIV pour cette petite coupe en grenat que vous voyez ici, qui est d'inspiration moghole, à l'origine. Donc c'est une pièce qui a voyagé depuis l'Inde. C'est en fin de compte un cache-coule, au sens sassanide du terme, c'est-à-dire une coupe à vin symbolique qui était utilisée par les Moghols au XVIIe siècle en Inde et que Louis XIV a trouvé très beau et a acheté dans les années 1680. Et puis vous voyez d'autres objets, par exemple cette sphère de cristal de roche que vous voyez au-dessus est rentrée dans les collections juste à la Révolution française. Elle provenait d'un grand chandelier en cristal de roche et qui avait été fabriqué vraisemblablement par une manufacture royale de cristal de roche qui était localisée à Briançon. Et donc la pièce était tellement exceptionnelle qu'elle est rentrée dans le trésor royal, et il est inventorié parmi les diamants de la couronne, c'est-à-dire faut entendre diamant par diamant de la couronne les pierres précieuses d'une façon générale du trésor monarchique de l'époque.
Tout à l'heure, nous avons parlé de Roger Caillois, François Farge, qui avait lui-même une collection très, très, très précieuse et très abondante. Il a dit ceci: les pierres possèdent on ne sait quoi de grave, de fixe et d'extrême, d'impérissable ou de déjà péri. Elles séduisent par une beauté propre, infaillible, immédiate, qui ne doit de compte à personne. Fin de citation. En fait, on a toujours l'idée que ces objets, ces pierres précieuses, sont parfaitement stables, presque éternelles. Or, elles ne le sont pas, elles ne cessent d'évoluer, puisque les atomes qui les constituent ne cessent de se recombiner. Même les diamants ne sont pas éternels, ils ont une durée d'existence qui est de quelques milliards d'années, c'est pas mal déjà, mais c'est pas l'infini.
Oui, absolument. Absolument. Même Galilée disait de la Terre et pourtant elle tourne. Et je dirais pour les minéraux, ben oui, et pourtant il bouge, il vit. On peut pas dire qu'il vit, mais il y a un cercle évolutif dans les minéraux qui est curieusement comparable à celui du cycle du vivant. Les minéraux cristallisent, ils se forment à un moment donné. Je n'ai pas dit qu'ils naissaient, hein, ils se forment, ils cristallisent. Ils existent à un moment donné. Et donc, je n'ai pas dit non plus qu'ils vivaient. Et après, à un moment donné, ils sont déstabilisés. Je n'ai pas dit qu'ils mouraient. Et pour se recombiner et s'adapter à leur nouvel environnement et faire d'autres espèces minérales. Et il y a tout un cycle qu'on appelle, nous, le cycle géochimique, qui est un immense recyclage. Et la Terre, en surface, est le résultat de ce recyclage depuis donc la formation de la Terre, il y a un peu plus de 4,5 milliards d'années.
Et prenons l'exemple du diamant que j'évoquais. Quel sera son destin ?
Le diamant, il dit métastable, c'est-à-dire qu'il apparaît comme étant stable à la température et à la pression ambiante, mais comme il s'est formé dans des couches beaucoup plus profondes, au-delà de 150 km de profondeur, là où il règne des températures et des pressions très élevées, ce diamant remis à température et à pression ambiante n'est plus en fait stable, et effectivement, un jour ou l'autre, il devrait se transformer vraisemblablement en graphite, c'est-à-dire un assemblage de carbone, un minéral noir cette fois-ci, mais dans lequel les atomes de carbone sont empilés d'une autre manière que dans le diamant, et cet empilement reflète justement cette décroissance de pression et cet rééquilibrage dans les...
Donc si je vous comprends bien, il n'y a pas très loin du diamant à la mine de crayon.
Il n'y a pas très loin, il y a simplement quelques milliards d'années, parce que tout ça est très très lent, mais par contre, il y a d'autres minéraux pour lequel c'est très très rapide, et justement c'est pour ça que au niveau de la conservation préventive des collections de minéralogie, c'est une activité de recherche très importante au muséum, parce qu'il y a malheureusement des minéraux, eux, qui se déstabilisent beaucoup plus vite, et nous devons absolument intervenir.
Alors j'ai des amis guides d'haute montagne qui sont aussi des cristalliers, ils cherchent des cristaux cachés dans le granit de Chamonix. Si on est chercheur de cristaux, où est-ce qu'il faut aller?
Alors, je vais vous faire une réponse un peu là où il y a les cristaux. C'est-à-dire que on peut trouver des minéraux, parce que cristaux est pas exactement comme minéral, hein, parce qu'on connaît tous les minéraux sont pas forcément des cristaux et tous les cristaux sont pas forcément les minéraux.
C'est quoi la différence ?
Eh bien, un cristal peut très bien être organique, et je dirais que l'ennemi public numéro un à l'heure actuelle, qui s'appelle Monsieur Cholestérol, fait aussi des cristaux, mais ce n'est pas un minéral, parce qu'on ne le trouve pas naturellement dans la nature, dans un contexte géochimique. Mais donc, la vitamine C, c'est aussi un autre, ça peut former aussi des cristaux.
Et c'est là, on n'est pas dans le minéral. Parce qu'un minéral peut être liquide, c'est le cas du mercure.
Alors, il y a des cristaux liquides, effectivement, qui existent, et dans le cas du mercure, on peut dire qu'effectivement, il y a une organisation des atomes dans le mercure, qui est liquide, qui n'est pas si éloignée du mercure solide cristallisé, et qui s'en inspire fortement. Avant, on croyait qu'un liquide était extrêmement désorganisé au niveau atomique, mais en fin de compte, on se rend compte que c'est pas si simple que ça. Et on peut pas vraiment parler d'un cristal, mais d'une organisation atomique, certes, complexe, plus complexe que dans un cristal, mais néanmoins, il y a une organisation atomique, même dans les liquides, absolument.
François Farge, j'en reviens à ma question. Où est-ce qu'on trouve les cristaux ? À Chamonix, je le sais, mais est-ce qu'il y a d'autres endroits ?
Alors, évidemment, on trouve les minéraux, je dirais, à peu près partout. Après, tout dépend du type de minéral que vous recherchez. Même à Paris, on a trouvé de très beaux minéraux. Notamment, il y a les gypses dits fer de lance, les grands cristaux de gypse qui ont été trouvés à la butte Montmartre. Et pas seulement, même dans le trou des Halles, à l'époque où il a été creusé, on a trouvé des tas d'autres minéraux, des célestines, des barytines. C'est pas des minéraux forcément très, très spectaculaires, mais c'est néanmoins des minéraux très intéressants qui nous renseignent sur le fait que, à une époque, il y a environ 40 millions d'années, à l'endroit de Paris, on avait une grande lagune tropicale dans laquelle de l'eau de mer s'évaporait tout doucement. Et donc, à n'importe quel autre endroit, je dirais, vous pourrez trouver des minéraux. Tout dépend le minéral que vous voulez, si vous voulez des gros cristaux ou des choses qui sont plus informatives d'un point de vue scientifique, en Bretagne, dans les Vosges, dans le Massif central, là où il y a les volcans, mais pas forcément. Et il y a des fois, vous pouvez trouver aussi des minéraux chez vous. Le sel qui est dans la salière, c'est très souvent du sel de mer cristallisé, le sel de Guérande. Voilà, c'est un minéral qui était à l'origine dissous dans la mer, qui s'est précipité naturellement dans des marais salants et qui remplissent nos salières et nos assiettes.
François Farge, nous continuons notre déambulation dans cette galerie de minéralogie du Muséum National d'Histoire Naturelle. Nous sommes devant des cristaux absolument gigantesques qui font plus d'un mètre de haut, voire davantage. Est-ce qu'il y a une limite à la taille des cristaux ?
Eh bien, il y a certainement une limite, en tout cas une limite de la connaissance humaine, parce que les plus gros que l'on connaisse font environ 14 mètres. Hein. C'est des cristaux qui ont été découverts au Mexique, aux États-Unis. On n'en connaît pas de plus gros, mais peut-être qu'un jour ça existe. On va les trouver. Mais en tout cas, ce que l'on a devant nous et qui est très frappant lorsque les visiteurs découvrent cette exposition, c'est la première chose qu'ils voient. Et c'est ce que j'appelle moi cette allée des Titans, qui montre effectivement ces quartz absolument gigantesques qui pèsent plusieurs tonnes.
On a des statues.
Oui, c'est des statues, c'est des titans là qui racontent une histoire qui est absolument étourdissante, une histoire non seulement en termes de mètres, de tonnes, mais aussi en la façon dont ils se sont formés. Notamment, il y en a l'un des premiers que l'on voit en entrant. Il est particulièrement transparent et il est magnifique. Il fascine tous les enfants. J'adore voir les enfants se pétrifier en quelque sorte devant le cristal, justement pour observer justement sa grande transparence. Vous voyez ce cristal fait un mètre. Alors, pour le quartz, la notion de cristal géant, vous savez, c'est variable suivant les espèces, c'est variable en biodiversité. Vous avez des fourmis géantes et des éléphants nains. Hein. Donc, c'est vraiment très variable suivant l'espèce. Pour du quartz, on va dire que ça devient géant à partir d'un demi-mètre de haut, environ.
Celui-ci est un quartz hyalin, il fait 640 kilos. Oui. Il a été découvert au Brésil. Vous disiez tout à l'heure que ces objets nous racontent des histoires. En l'occurrence, celui-ci, quelle histoire raconte-t-il ?
Sa
transparence, par exemple, est-ce qu'elle indique des choses sur le processus de formation et sur l'évolution qu'il a suivi ?
Alors, la transparence, peut-être pas directement, mais indirectement.
On a l'impression que c'est du vide.
Oui, on a l'impression qu'on plonge son regard dans ce monde minéral où il y a plein de petites cristallisations, des stalactites, des choses qui pendouillent. Et la lumière joue de façon extraordinaire, elle est décomposée. On voit trouble d'ailleurs, parce que c'est une propriété du quartz de décomposer la lumière. Et il y a plein de choses intéressantes. Mais justement, pour répondre à la question qui est effectivement comment s'est-il formé, là, il faut regarder les facettes. Regardez les facettes qui font le pourtour du cristal, elles sont striées horizontalement, alors que les facettes qui forment la pyramide sommitale, elles sont parfaitement transparentes. C'est d'ailleurs elles qui nous permettent de voir à l'intérieur du cristal, alors que les facettes tout autour du cristal sont striées horizontalement, comme on a dit, elles nous empêchent de voir à travers. Et en fin de compte, chacune des stries, c'est une période de croissance de ce cristal. Alors, le cristal géant, à l'origine, était un petit cristal, tout petit, qui était donc à la base, qui a cristallisé sur la roche, dont on voit à la base de ce cristal géant encore quelques reliques. Ce petit cristal est devenu grand au fur et à mesure que les solutions nourricières, au bout de millions d'années, l'ont alimenté la croissance de ce cristal, qui est devenu à la fois beaucoup plus large et beaucoup plus haut. Et aussi, et chacune de ces strates que l'on voit sur le côté, c'est une période de croissance. Vous voyez, il y en a plein.
Donc ça voudrait dire qu'à chacune de ces strates correspond une date ?
Correspond une date en particulier, un événement constructif qui a permis de faire le minéral. Et à l'origine, la grande pyramide transparente que l'on voit en haut, elle était tout en bas et toute petite. Et au fur et à mesure, elles se sont empilées les unes sur les autres. Donc là, on a l'impression de voir qu'une seule pyramide terminale. Mais en fin de compte, c'est la superposition de plus de milliers et de milliers de ces pyramides, les unes sur les autres, qui nous donne finalement ce cristal.
C'est une pièce évidemment magnifique, il y en a beaucoup d'autres, par exemple celle-ci qui ressemble à une sorte de menhir et qui a des couleurs plus sombres. Est-ce qu'on peut comparer son histoire à celle que vous venez de raconter pour le quartz ?
Alors, effectivement, il est très, très différent. On a essayé, dans la collection de cristaux géants du muséum, qui est la plus belle au monde, on a essayé de présenter justement les plus diversifiés. Et effectivement, celui-là est très différent du précédent. Nous avons vu, celui-là n'est pas parfaitement transparent. Il est même plutôt assez opaque. Par contre, il est beaucoup plus grand. Il fait plus du double en hauteur. Le poids est aussi absolument gigantesque. Hein,
830 kilos.
830 kilos, oui, absolument.
Il est diffumé, quoi. Quartz fumé.
Voilà, il est quartz fumé parce que lui a des petites inclusions d'aluminium qui ont subi l'irradiation naturelle des minéraux qui entouraient ce cristal-là et ce qui a donné la couleur enfumée à ce grand groupe de cristaux qui ont eu une croissance bien parallèle, tout ça pendant des millions d'années vraisemblablement.
Thank you.
Alors François Farge, nous sommes maintenant dans l'alcôve qui s'intitule « Des minéraux chatoyants ». Et on voit des papillons à côté de minéraux et on voit une similitude entre les couleurs des uns et des autres. Est-ce que ça se comprend ?
Alors nous avons devant nous effectivement donc un papillon qui s'appelle le morpho du Brésil, qui a la caractéristique d'avoir des ailes d'un très beau bleu, mais qui n'est pas dû à une pigmentation particulière de ses ailes. C'est simplement les écailles qui composent les ailes, qui diffractent la lumière et qui nous donnent donc cette impression que les ailes du papillon morpho sont bleues. Et on retrouve ce phénomène qu'on appelle iridescence, on le retrouve dans des minéraux qui, eux aussi, sont composés d'une masse minérale macroscopique à l'intérieur desquelles il y a plein de petits objets, de petites lamelles qui sont capables de diffracter la lumière, comme par exemple cette labradorite qui vient du Canada. Et quand on passe devant, eh ben, on verra que suivant notre position devant le minéral, sa couleur change, ce qui n'est pas le cas des minéraux qui sont colorés par des pigments chimiques. Et donc ces phénomènes d'iridescence sont très beaux et on les retrouve par exemple dans ces échantillons d'opales précieuses qui viennent d'Australie, dans lequel il y a plein de mini arc-en-ciel qui se développent à l'intérieur du minéral, qui est l'opale dans ce cas-là, qui contient plein de petites billes qui font office, qui ont le même rôle que les écailles du papillon, c'est-à-dire ces petites billes inférieures au micron diffractent la lumière et donnent ces impressions que la couleur et la chatoyance du minéral varie suivant sa position par rapport à notre œil et par rapport à la lumière.
Là, il y a une goethite. Alors, est-ce que ça vient de Goethe ?
Oui, la goethite a été nommée en l'honneur de Goethe, qui était un monsieur capable de beaucoup de choses, de poésie, d'écrit, de politique et aussi de sciences naturelles. Il a été à l'origine...
Il y a un traité de la lumière, d'ailleurs.
Il y a un traité de la lumière, oui. Il a été un des premiers à faire une classification des couleurs, absolument. Et donc, pour tous ses travaux en minéralogie, qui certes étaient assez innovants pour l'époque, donc on lui a dédié une espèce minérale, la goethite.
J'ai l'impression que les couleurs sont tellement différentes à la surface de cet objet qu'il a été en fait coloré par un peintre qui aurait utilisé des bombes de peinture, non ?
Oui, vous avez absolument...
Presque un tag.
Oui, vous avez absolument raison. C'est simplement quand la goethite fait des grands cristaux, des grandes masses, comme on voit en dessous de l'échantillon, sa couleur est d'un brun assez chaud. Mais par contre, quand elle forme des tout petits cristaux sur lesquels la lumière peut interagir, cette lumière va se trouver décomposée et faire, oui, effectivement, cette féerie de couleurs métalliques très inhabituelles dans le monde minéral et même dans le monde naturel d'une façon générale.
Alors, il y a également des cristaux qui sont fluorescents. On en a quelques-uns là devant nous. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'émettre de la lumière après avoir été eux-mêmes éclairés, c'est ça ?
Oui, c'est-à-dire que c'est pour illustrer effectivement le fait que la notion de couleur dépend aussi de la source lumineuse. Si par exemple on voit ce magnifique échantillon qui est une racine d'arbre qui s'est enfoncée dans un lac salé de Californie et tout le long des racines, des cristaux de sel ont précipité et ont cristallisé, donnant cette allure de main un peu féerique. Et alors le sel, on connaît tous sa couleur, il est incolore, mais dans le cas particulier de cet échantillon trouvé en Californie, quand on l'expose à des rayonnements ultraviolets.
C'est le cas ici. On l'éclaire pendant un certain temps, puis on coupe l'éclairage. Et
vous voyez cette magnifique couleur rose, saumon, orangé, qui est absolument magnifique et qui n'a rien à voir avec la couleur que l'on connaît pour le sel. Alors tous les échantillons de sel ne réagissent pas comme ça, mais celui-là en particulier.
C'est-à-dire que la couleur n'est pas une propriété intrinsèque des matériaux, elle dépend de la façon dont on les éclaire.
Voilà, elle dépend de la façon dont on les éclaire, elle dépend de nos yeux. Hein, on sait que les animaux ne voient pas exactement comme nous, et elle dépend aussi encore plus de nos yeux, de notre subconscient.
François Farge, nous sommes maintenant devant un objet qui s'appelle de la trémolite, qui ne ressemble pas du tout aux minéraux et aux cristaux que nous avons vus jusqu'à maintenant, qui ressemble plutôt à un végétal, on dirait presque un morceau de bois.
Oui, il y a une très grande diversité de cristallisation dans la nature. Et effectivement, cette trémolite, elle forme des longues fibres blanches sous la forme d'un échantillon assez massif qui fait environ 30 cm de long. Et on voit qu'il y a comme des fibres qui semblent se détacher de l'échantillon. On a l'impression que l'échantillon est très fragile. On pourrait même penser à un amas de fibres, comme un textile qui aurait été abandonné dans la nature et qui se serait compacté. Effectivement, il y a des cristaux qui cristallisent sous forme de très longs cristaux, mais avec un diamètre très faible. Ils s'agglutinent entre eux pour donner cette forme fibreuse qui évoque effectivement une sorte de tronc de peuplier.
Vous allez excuser la naïveté de ma question, mais qu'est-ce qu'on appelle une roche et comment est-ce qu'on la distingue d'une pierre ? Une roche est un composé de minéraux, c'est ça ?
Ouais, c'est
une
ça.
Pierre.
La pierre, je crois, est le nom vernaculaire plus générique de toute substance solide qu'on trouve dans la nature. Alors ça va inclure des minéraux, des cristaux d'origine minérale, ça va inclure des roches. Et donc je crois que c'est la différence entre des nomenclatures effectivement de tous les jours et puis des noms plus scientifiques effectivement.
François Varch, pour finir, nous sommes devant une vitrine qui montre les dernières acquisitions du muséum. Bon, j'ai souvent dit que, dans le courant de cette émission, que les objets que nous voyons étaient extraordinaires, mais je ne sais plus quoi dire là, parce qu'ils sont encore plus extraordinaires. Notamment cette crocoïte qui vient d'Australie, qui semble complètement surnaturelle, d'une part par sa structure, mais aussi par sa couleur.
Oui, cet échantillon de crocoïdes fait environ 25 cm de long sur une dizaine de hauteur et montre plein de hérissons, de cristaux en forme de hérissons, de couleur rouge-orange très vive et qui est composé par un minéral, comme vous l'avez dit, donc la crocoïte, qui est un minéral très rare. Et on le trouve essentiellement de nos jours en Tasmanie, donc cette île du sud de l'Australie, dans une mine qui n'est plus du tout exploitée, mais sur lequel, il y a quelques années, un filon assez important a été trouvé par des amateurs, des collectionneurs amateurs australiens, et qui ont réussi à en extraire certains échantillons. Mais on voit bien la fragilité de ces cristaux-là. Étant donné la fragilité de ces cristaux-là, on imagine que, et on sait qu'environ plus des trois quarts des échantillons qui ont voulu être extraits par ces minéralogistes-là ont malheureusement été détruits. Donc cet échantillon était vraiment exceptionnel, et il est rentré dans les collections en 2013, qui nous a permis de pouvoir montrer justement ces cristallisation d'une si grande délicatesse.
Moi, je ne sais plus où tourner mon regard. J'ai envie de vous faire parler de cette stibnite là, qui est absolument incroyable. On dirait une pièce forgée par un bijoutier ou un sculpteur plutôt, qui vient de Chine.
C'est de l'art contemporain.
Oui, c'est de l'art contemporain. Ouais. Alors que c'est très ancien, j'imagine.
Oui, alors oui, ça a au moins, je ne sais pas exactement, mais environ 30-40 millions d'années au bas mot. Alors, c'est trois grands cristaux avec un éclat gris métallique qui sont agencés les uns dans les autres pour former une sorte de H, une lettre H complètement distordue. Et sur chacun de ces cristaux jaillissent d'autres petits cristaux avec un éclat métallique très fort. C'est magnifique. C'est un minerai d'antimoine. Et à l'heure actuelle, l'antimoine est un métal très utilisé, un métal stratégique, comme on le dit, parce qu'il est essentiellement exploité en Chine, qui contrôle l'essentiel de la production. Et malheureusement, l'essentiel des stibines chinoises passe au concassage pour en extraire l'antimoine, qui est utilisé dans des tas d'applications quotidienne, y compris les allumettes.
Y compris les allumettes.
Oui, on met un peu d'antimoine dans les allumettes pour les aider à combiner avec du soufre et avec d'autres choses, d'autres ingrédients, pour leur permettre de s'enflammer quand on les gratte sur une surface rugueuse. Vous voyez, une belle stibine comme ça peut se transformer en un paquet d'allumettes.
Je préfère ne pas y penser. Pour finir, là, ces quartz agates absolument superbes.
Ah oui. Alors ça, c'est des fémurs de dinosaures. C'est des sections qui ont été faites dans des fémurs de dinosaures géants du Jurassique, qui ont environ 200 millions d'années approximativement.
C'est une blague ?
Non, c'est vrai. Non, c'est des vrais dinosaures, des grands brontosaures qui faisaient plusieurs mètres de haut. Et ce que l'on voit au centre de cet échantillon, donc c'est un échantillon en forme d'ovale, de couleur brune, mais au centre, on y voit une agate orange, rouge et blanche qui s'y est développée à la place de la moelle osseuse. Donc la moelle osseuse du dinosaure a été transformée en cette magnifique agate.
Et alors, nous, donc, l'os c'est minéralisé en quelque sorte.
L'os c'est complètement minéralisé. Alors la partie dure de l'os, qui est la partie extérieure, est devenue marron, et la partie molle, qui était la moelle osseuse, est devenue cette magnifique agate. Et d'ailleurs entre nous, on l'appelle ossobuco.
François Fage, nous terminons en votre compagnie cette visite de l'exposition du muséum qui s'intitule « Les trésors de la Terre » qui est ouverte au public tous les jours sauf le mardi de 10h à 17h. Et à la sortie, nous tombons sur cette vitrine consacrée à Roger Caillois qui était écrivain, membre de l'Académie française et qui s'est passionné pour les minéraux et les cristaux, qui avait lui-même une collection fabuleuse dont on voit quelques pièces ici, notamment ces objets-là qu'on appelle des quartz agates, dans lesquels certaines formes sont sphériques, il y a des cercles concentriques qui ont été faits naturellement. Est-ce qu'on comprend comment des formes géométriques aussi pures, presque platoniciennes, peuvent être, entre guillemets, fabriquées par la nature?
Oui, effectivement, et c'était un des objets d'interrogation de Roger Caillois, notamment dans son premier opus sur les minéraux, le livre Pierre, publié en 66, dans lequel il fait tout un chapitre justement sur l'ordre dans les minéraux, et en particulier le cercle, qui l'a beaucoup intrigué, parce qu'il dit justement que le cercle est assez rare dans la nature, d'une façon générale, mais en minéralogie, il y a quelques exemples qui le montrent, effectivement. Cette agate est vraiment étonnante, elle s'appelle monocle et binocle, parce que si on regarde d'un côté de l'agate, on voit trois séries de cercles concentriques, mais de l'autre côté, on peut voir l'autre côté grâce à un miroir que nous avons disposé à l'arrière de l'échantillon, nous permet de ne voir que deux. Donc il y a comme si que dans le centimètre qui constitue l'épaisseur de l'échantillon, il y a une des trois structures qui disparaît dans la pierre. Donc c'est vraiment magique, c'est fascinant. Mais en fin de compte, à l'origine, c'était des stalactites. Et donc il faut voir que cet échantillon est une tranche qui a été taillée et polie dans une stalactite qui pointait vers nous à l'origine. Et donc ces stalactites se sont déposées par le ruissellement continu d'eau, plus ou moins chargée de sels minéraux. Et dans ce cas-là, il y avait trois stalactites qui se sont formées. Et chacune des zones concentriques illustre justement des phase de dépôt de sels minéraux tout autour de la stalactite. On imagine bien la goutte d'eau tomber sur la stalactite et l'enrober et donc déposer les couches de minéraux de façon homogène. Simplement, une des trois stalactites s'est arrêtée, s'arrête dans l'épaisseur du minéral et n'arrive pas, ne se retrouve pas de l'autre côté. C'est ainsi qu'on trouve que d'un côté, Roger Caillois l'appelle binocle parce qu'on voit ces trois cercles concentriques qui font effectivement allusion à un binocle, alors que de l'autre côté, on n'en voit que deux, d'où le nom de monocle.
François Varge, on devine que le fait d'être scientifique et passionné comme vous l'êtes n'empêche pas d'être sensible à la symbolique de ces pierres. Et donc j'invite tous les auditeurs de France Culture à venir visiter cette exposition, Les Trésors de la Terre. C'était La Conversation Scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Catherine Madure, à la prise de son Yann Frécy et à la réalisation François Connac.